C'est le tout premier morceau qu'on est sorti sous le nom Isaac Delusion. C'est le morceau qu'on a fait en le moins de temps, avec le moins de pistes, et c'est le morceau qui a le mieux marché. Et depuis, on n'arrive pas à le refaire, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose de spécial, un peu ovni dans ce morceau qui est intéressant.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie.
Beatmakers, breaking down beats.
Thank you ever so kindly. I'm here with my machine.
En 2020, ça ressemble à quoi un groupe de pop ? Pour les Parisiens Isaac Delusion, les machines sont aussi essentielles que les claviers et les guitares dans le processus créatif. Dans ce nouvel épisode de la série Beatmakers, par David Comeyas et Samuel Hirsch, ces enfants de la nuit rejouent le scénario d'un des titres qui les a rendus célèbres, le splendide Midnight Sun.
Isaac Delusion, Loïc, mon collègue, et moi-même, Jules. Alors, c'est en fait, je suis parti de la basse, vraiment, le tout début, c'est la basse. En fait, c'est un morceau que j'avais fait, un morceau hip-hop, en fait, j'avais samplé la basse de Soul Kitchen, des Doors. En fait, c'était l'époque vraiment où je commençais à sampler et à... chaque morceau que j'entendais, c'était un sample potentiel, quoi. C'était vraiment le tout début où je voulais tout sampler. Et voilà, quand je suis tombé sur ce morceau, c'est un morceau qui a été fait au début de la stéréo où vraiment ils allaient comme des cochons et ils mettaient des instruments tout à gauche ou tout à droite. Et donc là, la basse est complètement isolée de... Elle est dans l'intro. Et elle est complètement isolée en fait de l'orgue qui joue en même temps parce que les deux sont chacun d'un côté et donc du coup on peut isoler la basse. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain. Et ça sonne vraiment comme une basse hip-hop, même telle qu'elle. Voilà, donc ça c'est juste le côté gauche du morceau. Donc on entend la basse, on peut la mettre en boucle. Si on ralentit la basse et qu'on met un beat hip-hop.
Je pense qu'il y a toujours eu ce côté un petit peu hip-hop dans notre musique au niveau des rythmiques, si on tend un peu l'oreille.
Tu vois, à l'époque, j'écoutais vachement ça, Gangstar de la Soul, donc...
Fresh out the gate again, time to raise the stakes again. Fat my plate again, y'all cats know we always play to win. G&G to the stars, son. Haters took this shit too far, son. So that's all for you, I'm wiping out your whole team. Ow, splatter your dreams with lyrics to shatter your schemes. The badder you seem, the more lies you tell. The more lies you sell, now by surprise you fell. Into my death trap, right into my clutches. Stupid, you know the guard must bless every single mic he touches. I've suffered just so I could return harder. Wanna be this starter, fuck around, make you a martyr.
On a commencé au collège, collège, lycée, tous les deux, à faire de la guitare, genre avec nos potes. Et après, Loïc, il a continué, il a eu un groupe folk. Et moi, je me suis vraiment commencé à faire de la musique avec la MAO, quoi, quand j'ai découvert justement la musique électronique, parce que bah, je jouais pas d'instrument. J'écoutais beaucoup de hip-hop à l'époque, donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite, du coup, quand on s'est retrouvé sur le projet plus tard, Loïc s'y est mis aussi, et du coup, c'est devenu vraiment comme ça directement. Un projet avec vraiment la MAO qui est partie intégrante, quoi.
Quand on a commencé à faire de la musique, la MAO en fait avait vachement évolué et on a vraiment...
Vraiment justement pour le coup une démarche de beatmaking, parce que voilà, on s'est jamais retrouvé dans un studio tous ensemble et à commencer un morceau comme ça, genre qui a une idée. Ça c'est vraiment... chaque morceau part de quelqu'un qui est chez lui tout seul sur son ordi, ses machines, ses trucs, et qui pose une idée, ou même une guitare par exemple, ou tu vois, une voix. Mais il y a toujours comme ça un départ très électronique, des boucles. Voilà, il y a vraiment une manière de travailler et de composer qui est électronique, quoi, à la base.
Mmh.
voilà, c'est vraiment quand j'ai entendu cette basse, je me suis dit putain, il y a juste à la ralentir et ça fait un beat chambé quoi. Avant de bidouiller ce morceau et pour en faire la base de Midnight Sun, j'avais aussi posé les petits samples de voix qui viennent au morceau de Dusty Springfield qui s'appelle I Am Your Child. Millisecondes, voilà, on dirait que c'est fait pour, c'est cuté, il n'y a pas de blanc avant, c'est vraiment comme s'ils avaient coupé sa voix en plein milieu d'un mot, et donc du coup ça fait ce sample qui revient. Donc cette voix, ensuite je l'ai redécoupée, et c'est elle ensuite qui a donné tous les petits bouts, comme ça là.
Ça donne en fait un côté un peu déstructuré. C'est vrai qu'à partir du moment où on la découpe, c'est un peu comme faire une phrase avec des mots, découper les mots et ensuite les mélanger. Et ça donne une phrase complètement différente et on est parfois surpris de ce que ça peut donner.
C'est vrai qu'une voix qui est complètement redécoupée comme ça, c'est plus des mots, ça devient juste des sons, une texture en fait qui peut être super intéressante et avec laquelle on peut refaire une ligne et ça devient en fait juste un instrument quoi. Le truc, c'est que du coup, je me suis retrouvé avec un morceau qui était très hip-hop et qui avait énormément de potentiel, je trouvais, avec rien. Sauf que je connaissais pas de rappeur, j'avais pas de groupe à l'époque, donc je savais pas quoi en faire de cet instrumental hip-hop. Et j'ai voulu, à un moment, j'ai essayé d'en faire un truc électro. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc du coup, j'ai juste mis le tempo, le BPM à 120, voilà, comme un truc électro de base. Et cette basse qui était une basse très hip-hop, elle marchait pas aussi rapidement. Donc du coup, je l'ai redécoupée, comme j'avais fait avec la voix, et j'ai mis la première note en boucle. Voilà, et ensuite, avec toutes les petites notes que j'avais redécoupées, donc genre... Voilà, toutes les notes de la basse qu'on entend de la boucle. Ensuite, ça a donné donc juste la ligne de basse, de base. Il y a une note qui traîne en fait dans le fond en permanence et donc il y a une note qui est là constamment comme en fait ça fait un peu musique indienne où t'as toujours une basse à la sitar là qui traîne dans le fond sur tout le morceau. Et par-dessus des petites qui se rajoutent mais jamais sans couper la note permanente, donc il y a des espèces d'accords de basse en fait.
Il y a clairement un côté hypnotique, c'est sûrement ça aussi qui a plu aux gens. Parfois, il y a une naïveté qui est très dure à retrouver quand on a des connaissances et qu'on commence à savoir maîtriser vraiment son propos. Il y a quelque chose d'assez maladroit mais d'authentique qu'on a beaucoup de mal à reproduire maintenant. Je dirais qu'on a tendance à rajouter pas mal de pistes maintenant. Et là, par exemple, ce qui est intéressant sur la session Pro Tools de Midnight Sun, c'est qu'il y a 7 pistes. Et là, sur notre dernier album, il y a des morceaux qui sont à 40 pistes, par exemple. On a fait un morceau qui s'appelle Black Widow, qui a une partie cuivre, mais que j'ai fait à la bouche, en fait, que j'ai passé dans un vocodeur, donc ça fait un truc un peu bizarre. Mais bon, sur ce morceau-là, je sais pas, on ne devait pas être loin d'une quarantaine de pistes, et encore, c'est pas énorme. Il y a quelque chose de très intéressant à travailler à la source, en fait. Le minimalisme, c'est très très dur à faire. C'est vraiment pas facile de pas avoir beaucoup de sources, et de pas avoir beaucoup de pistes, et d'en tirer quelque chose de cool. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui est le plus dur, je pense.
À
À l'époque, j'écoutais très peu d'électro et j'étais contre le kick droit de l'électro. Je trouvais ça trop facile. Voilà. Du coup, voilà, même en essayant de faire un morceau électro, j'ai gardé un beat qui était très hip-hop. Donc c'est quand on l'écoute, par exemple à 95, donc ça devait être à peu près le tempo de base du morceau et qu'on l'accélère, voilà, ça fait la rythmique. Voilà, si on rajoute la basse et les petits samples de voix, voilà, c'est quasiment le même morceau, mais voilà, un peu accéléré, avec la basse remixée un peu, quoi, rebidouillée. Moi, je me suis retrouvé avec cette boucle, voilà, juste la basse, le beat et donc ces petits samples de voix. Et donc, du coup, c'est sur ça que Loïc est tombé et voilà, qu'il a transformé ensuite en le morceau, quoi.
À un moment, je me rappelle que j'ai rajouté une note de piano, juste qui ouvre un petit peu tout le morceau, quoi. Donc, c'est entre guillemets le refrain. Un gros sustain dessus, c'est genre un piano ou un Rhodes avec plein de reverb.
Au début, c'est vrai qu'on avait tendance à mettre du Rhodes partout. On aimait vraiment le côté éthéré comme ça dans les musiques qu'on écoutait. Bah voilà, par exemple, le Rhodes, on en retrouve beaucoup en hip-hop. Donc moi, j'avais envie d'en mettre partout. Et on en retrouve même dans toutes les musiques, je sais pas, ambiantes, plus aériennes, plus folk, plus trucs. C'est une des textures qui a fait un peu l'identité du groupe à la base, parce que c'était vraiment un son sur lequel on se retrouvait, quoi.
Moi, l'amour de cet instrument me vient a priori de Supertramp. D'ailleurs, c'est pas du Rhodes, c'est du Wurlitzer, mais ça sonne plus ou moins pareil. Et voilà, c'est un groupe que mon père écoutait énormément quand j'étais jeune, et ça a un peu imprimé mon quotidien musical. Donc.
Une question qu'on se pose aussi beaucoup de plus en plus, c'est à quel point garder justement la fraîcheur et le truc qui marche sur la démo. Tu vois, quand il y a quelque chose qui marche sur la démo, est-ce qu'on va aller se faire chier à le réenregistrer en studio et à repasser deux jours dessus, à essayer de l'enregistrer pour finalement garder la démo et la piste de démo? Et c'est ce qui est arrivé beaucoup là sur le deuxième album, sur des voix, sur plein d'éléments, sur des guitares, des claviers. Une fois en studio, on s'est arraché les cheveux 2 heures pour essayer de refaire une guitare. Finalement, on a gardé celle qu'on avait enregistrée au point éphémère avec des gens qui parlent derrière. Et on a maquetté beaucoup de choses et on a enregistré plein de choses justement dans le local qu'on a au point éphémère. C'est pas du tout des conditions professionnelles pour enregistrer. On n'a pas des micros terribles, pas de carte son, on est avec nos ordi comme ça un peu à l'arrache. Et au final, en fait, quand ça marche, quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête, quoi. Quand tu vois les Tame Impala, voilà, tout ça qui enregistre tout chez eux, voilà, sur bande ou genre Mac DeMarco, qui font quasiment tout eux-mêmes, parce que justement ils veulent garder la piste originelle en fait.
Qui m'est passé les fichiers, enfin le morceau, je suis rentré chez moi directement et ça a dû me prendre à tout péter 20 minutes, quoi. J'ai pris mon micro, je l'ai branché, j'ai griffonné 2-3 mots sur un papier, j'ai chanté un petit peu comme ça ce qui me venait par la tête, et ça a jamais bougé en fait. C'est cette version là en fait qui était dans l'album et qui est passée à la radio, tout ça, donc À côté de ça, parfois, je mets un mois avant de finir un morceau. Et là, ce morceau-là, bah, ça s'est fait en 15 minutes.
Oh, you see the flying shadows dancing and lighting in the midnight sun. Let's watch the world when the sea is repeating the same move over again.
J'ai commencé vraiment à écouter de la musique avec les CD que mon père écoutait en fait quand j'étais gamin, donc Neil Young, tout ça, qui a cette voix assez au perché. Ensuite, quand j'ai commencé à me faire ma propre culture musicale, j'ai beaucoup écouté Sigur Rós ou Jeff Buckley ou Thom Yorke, par exemple, c'est des chanteurs qui utilisent un petit peu le côté lyrique. Quand j'ai commencé à chanter au début, c'est sorti assez naturellement, une tessiture assez élevée comme ça. Il y a de l'inconscient un peu là-dedans, c'est-à-dire que c'est des phrases qui sont sorties un peu de mon inconscient et qui ont été posées sans vraiment de sens, mais au final ça crée toujours un sens. Ça qui est très, très intéressant dans cette démarche-là, c'est très imagé, hein. Je crois que les paroles c'est vraiment comme un petit peu quelqu'un qui décrit un tableau, je dirais, ou qui voit quelque chose.
Walk away with me. We are prisoner of the gravity, but we can still be free.
Alors ça, c'est des boucles de... c'est des chœurs.
Je suis un peu fasciné par la musique grégorienne et tout ça. Un truc que j'ai toujours aimé faire, c'est voilà, superposer 5 pistes de voix avec des harmonies différentes pour créer des chœurs, voilà, un petit peu mystiques, un petit peu... Je les ai insérés au refrain. Et ça ouvre un petit peu, ça fait décoller un petit peu le tout. On rentre dans une sorte de transe et au moment où ces chœurs arrivent, il se passe quelque chose, on s'envole, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mon grand-père était chanteur, il chantait parfois à l'église. Je me rappelle d'être allé le voir une ou deux fois quand j'étais gamin. Peut-être que j'ai été touché, je sais pas. Mais non, je suis absolument pas quelqu'un qui va à l'église. J'ai rapidement posé ma voix dessus et je l'avais vraiment laissé tomber. Il était au fin fond de mon ordi. Et il s'est avéré qu'il a ressurgi dans une playlist, un peu par hasard. Notre ingénieur du son de l'époque a écouté ce morceau et m'a dit « Ouais, c'est super, tu peux le remettre. » Donc je l'ai remis une deuxième fois et puis une troisième fois. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer avec ce titre.
We'll be right back.
quand on a commencé à faire de la musique avec Jules, on rêvait de passer sur Nova. C'était un peu notre but, quoi. Et en fait, à partir du moment où on a fini ce morceau et il a commencé à tourner, il est rentré direct en playlist sur Nova. Et un matin, on s'est réveillé, il passait sur Nova, quoi. Donc, sur le moment, on s'est dit qu'on pouvait, voilà, que notre vie était était terminée, quoi. Enfin,
notre plus grand accomplissement était déjà fait. En fait, l'EP était même pas sorti. C'est ça qui était drôle aussi. Il est passé sur Nova avant même que le morceau sorte. On n'existait même pas déjà officiellement que. Voilà, ce morceau était déjà à la radio, on n'en pouvait plus, quoi. J'aime beaucoup le jingle de la SNCF, là. Pour avant les annonces, là. Mais je crois que... C'est qui? C'était Roger Waters, non, qui a fait un morceau avec, non?
C'est Gilmour, David Gilmour.
David Gilmour. C'est un morceau qui est tellement associé au départ en vacances que voilà, je trouve qu'il y a un truc exotique dans ce petit jingle.
Arte Radio. .com.
J'aime beaucoup notre ingénieur du son a un studio à Gisors et il a une petite rivière qui coule. C'est vrai que le matin, en général, je me réveille le premier et j'entends l'eau de la rivière qui ruisselle. Et ça crée une sorte de sérénité. J'aime bien tout ce qui est bruit d'eau. Pareil, hier, il y avait un énorme orage. J'ai dû passer 20 minutes à écouter l'orage, quoi. Je trouve ça fascinant, la pluie qui tombe, le déluge et tout. C'est incroyable. Je pense que je vais en mettre dans le prochain album.